Nous sommes en compagnie d'Éric Meyer, journaliste, écrivain et grand connaisseur de la Chine où il vit depuis 20 ans. Il a été la voix française de France Inter à Pékin et puis on peut le retrouver sur la RTBF aujourd'hui et sur Radio-Canada. Il est par ailleurs le fondateur de la lettre d'affaires hebdomadaire Le Vent de la Chine. Il vient de publier aux éditions du Seuil « Bon chat chinois prend la souris », un ouvrage qui nous raconte la Chine des Chinois un peu à la manière de Brèves de comptoir. On ne croise pas ici des milliardaires rouges, mais plutôt leurs employés et leurs familles, des professeurs, des étudiants, des retraités, des jeunes filles amoureuses et des petits trafiquants en tout genre. L'aventure est au coin de la rue, et les Chinois se révèlent ingénieux ou naïfs devant l'accélération du temps et des mœurs. Éric Meyer, 20 ans en Chine, c'est pas rien dans la vie d'un homme. Alors, qu'est-ce que vous avez appris depuis le premier jour de votre installation à Pékin ?
Eh bien, j'ai appris, par exemple, que le climat est presque le même qu'en France, un peu plus sec peut-être. J'ai appris qu'une très grande ville comme Pékin pouvait énormément changer en 20 ans, ce qui est banal, mais doubler de population, ce qui est moins banal, et passer du gris, que l'on vient d'entendre avec Bogdan à l'instant, au multicolore aujourd'hui, qui est la couleur dominante de Pékin, et notamment au vert, puisque Pékin a engrangé en peu d'années 50% de ses 50% de sa surface en parc. Par contre, j'ai aussi appris que tous ces aspects extérieurs qui semblent si écrasants ne sont en réalité que des détails, dans la mesure où la Chine reste une idéologie ou plutôt une discipline avec une machine de pouvoir énorme par derrière et qui est capable, en tout cas dans la grande ville, de se faire obéir au doigt et à l'œil. C'est donc un régime autoritaire. Par conséquent, on a détruit dans Pékin, dans les 7 dernières années, environ 6000 hutong, qui étaient les ruelles traditionnelles chinoises et qui formaient tout le tissu urbain. Croyez-moi si vous voulez, aujourd'hui, il en reste 120.
Ça au lieu fait de plus 6000.
Beaucoup. C'est énorme. On a gardé en gros que la cité interdite et les parcs et quelques bâtiments dans les résidences diplomatiques pour étrangers. Tout le reste a disparu. Donc, on pourrait dire d'une manière assez triviale que plus ça change et plus c'est la même chose. Ça change dans l'épiphénomène, ça reste fondamentalement serré sous l'angle de la structure sociale, ce qui exprime aussi, on en parlera plus tard, toute la tension de ce peuple qui a vu tout changer, sauf ce qui pour lui serait l'essentiel, c'est-à-dire la liberté. Et enfin, j'ai encore appris que la Chine savait rire, savait pleurer, savait réfléchir et savait partager toutes les émotions qui sont les nôtres.
Qu'est-ce qui vous a décidé à rester sur ces 20 ans en Chine ?
J'ai voulu rester car tous les rapports avec la Chine sont sur le long terme. Il n'est pas très intéressant de rester pour peu de temps. Et par conséquent, par exemple, je vois des gens qui habitent Pékin dans des résidences pour étrangers et qui font bravement de la calligraphie, qui essayent de meubler leur temps, souvent les épouses d'hommes d'affaires, de diplomates, quoi, qui ont des clubs de femmes pour parler de la Chine éternelle, du bouddhisme, de choses comme ça, ou qui essayent aussi de faire des œuvres dites de charité ou de développement, et c'est tout à fait honorable. Mais après 2 ou 3 ans, elles s'en vont sans avoir appris un mot de chinois. Et finalement, j'ai peur de le dire, mais je redoute que leur existence n'ait été futile ou qu'elles se soient plus ennuyées qu'autre chose et qu'elles n'aient pas saisi l'essence ou le ressort de la Chine. Et ce ressort s'obtient en restant suffisamment longtemps et en faisant l'effort d'investir dans la langue ainsi que de sortir de ses murs.
Comment travaille un journaliste étranger au quotidien avec la censure en Chine ? Parce que c'est aussi 20 ans de journalisme.
Oui. Écoutez, la censure n'est paradoxalement pas un énorme problème. La censure se manifeste par 2 choses. Où, d'une part, on essaye de nous empêcher d'avoir accès aux informations les plus privilégiées via Internet. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il existe des outils magnifiques et que la Chine ne peut pas contrer. Et je vais sur Internet partout où je veux, sans, je le dis sans orgueil et sans m'en vanter, mais je peux travailler. Et l'autre aspect, c'est que les fonctionnaires chinois ne vont pas vouloir vous rencontrer. En 21 ans, 20 ans et demi de Chine, j'ai rencontré deux ministres, à savoir Mme Wu Yi, vice-premier ministre, et Zhu Rongji, premier ministre. L'un et l'autre étaient il y a plus de 5 ans. Donc ce sont des gens qu'on ne rencontre jamais. J'ajoute que je ne les ai pas rencontrés en tête-à-tête non plus, je les ai rencontrés avec un autre journaliste, donc c'était une espèce d'interview croisée, pas tout à fait exclusive. Ces gens ont peur de nous. Ils savent qu'ils ont tout à perdre à s'épancher auprès de journalistes étrangers ou même auprès de qui que ce soit, car ils font partie d'un appareil qui est fermé et cloisonné. C'est peut-être une des définitions les plus profondes du communisme, c'est quelque chose qui est extrêmement cloisonné où l'information ne passe pas. Hier soir, nous étions avec quelques Chinois, notamment, à discuter. Et à la fin, ces jeunes Chinois m'ont témoigné que je connaissais la Chine mieux qu'eux. C'était un grand compliment, mais avant toute chose, comment pourraient-ils connaître leur propre pays alors que tout est cloisonné? L'information n'apparaît pas dans leurs journaux, ni à dans leurs médias. Et l'homme puissant et important se cache. Donc on ne les rencontre pas. Mais à part ça, notre information, enfin, tout cela nous permet de travailler d'une manière quand même cohérente et honnête, dans la mesure où on ne nous donne pas les informations. Nous pourrions, à la limite, dire n'importe quoi et personne ne viendrait nous contredire. De même, les Chinois ne prennent pas position par rapport à ce que vous dites. Ils ne sont même pas supposés l'avoir entendu. Donc, c'est à nous, tous autant que nous sommes, de prendre l'information que nous pouvons par nos contacts, par Internet, réfléchir grandement sur tout ce que cela veut dire, en tirer une analyse, et on est seul face à notre conscience et aussi face à un public qui, si nous disions des bêtises, je suppose qu'il serait assez rapide à nous dire qu'on dit n'importe quoi et que ça se sentirait ou que ça s'entendrait. Car on peut mentir à tout le monde à un moment, on peut mentir à une personne tout le temps, mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps.
C'est un proverbe chinois, j'imagine.
Non, c'est américain, mais ça revient.
Mais vous avez vécu des grands changements depuis 87 et votre arrivée. Finalement, c'est une ouverture. Vous n'étiez...
Ben, totalement. Quand je suis arrivé, la ville était donc grise, en briques. Elle était salie par la poussière du charbon et du soufre. Même la pollution n'était pas la même. Il nous arrivait de tousser et d'avoir un air jaune de soufre. Et il arrivait que des tempêtes de sable terribles arrivent sur nos fenêtres et passent à travers la fenêtre parce qu'elle n'était pas tout à fait étanche et on la retrouvait sur notre ordinateur, partout, dans nos vêtements, une quantité effrayante de sable, du gobi. Alors aujourd'hui, tout cela a changé. Mais pas forcément. Il y a plus de tempêtes de sable qu'avant, il n'y en a pas moins. Mais d'une part, notre isolation est meilleure. Et d'autre part, Pékin a planté des rideaux d'arbres tout autour de la ville qui font que ce sable indispose bien des gens, mais pas nous qui sommes au centre de la ville, quoi, ou moins en tout cas. À part ça, les gens sont quand même un peu plus joyeux qu'avant, car ils ont plus d'objets, de consommation. Ils sentent qu'ils s'enrichissent chaque année de peut-être 5%. Tout le monde s'enrichit de 5% en Chine, même si on est plus pauvre que nous autres en France. Et je vois Lille, une ville absolument merveilleuse, une architecture incroyable. Qu'est-ce que c'est beau, cette ville. En Chine, on n'a rien de tout ça. La ville est moche. C'est du béton, c'est de la brique. Elle n'est pas très bien traitée. Mais les gens sont joyeux, en disant notre pays est infini, au sens où il n'est pas fini. Vous voyez. Et donc, on sait que l'année prochaine, on aura 5% de plus. Et là, je dirais, les Français, les Européens, les Américains ne peuvent pas du tout en dire autant.
Ah non, ça c'est sûr, c'est plutôt 5% de moins. À propos de cet ouvrage « Bon chat chinois prend la souris », vous pouvez rappeler la référence de ce titre en forme de proverbe?
Bien entendu, ça commence par ma lettre Le Vent de la Chine, qui essaye d'être un produit intégral, qui parle de la Chine dans son ensemble au fil de la semaine, en parlant de la politique, de l'économie et du social. Je veux absolument faire le lien entre tous ces chapitres. C'est essentiel pour recoudre le tissu culturel et social, y compris chez les expatriés, pour qu'ils se sentent un petit peu chez eux dans ce pays qui est si difficile. Alors, l'article sur la société s'appelle « Le petit peuple ». Et chaque semaine, j'essaye de prendre un cas d'une personnalité étrange, bizarre, une scène burlesque qui parle toujours au départ d'une tension et qui parle toujours d'une culture amoindrie par le totalitarisme. Et l'être humain, comme un peu Charlie Chaplin avec sa baguette, veut avancer et veut se retrouver et veut faire ce qu'il a à faire et ne pas tenir compte des obstacles immenses qui sont face à lui. Et si on ne peut pas aller tout droit, on passe par le côté, on tournicote et on fait des trucs, des ruses. Et ce sont ces scènes-là que j'essaye de saisir sur le vif à partir de la presse chinoise et de les décrire en tant que Français avec une psychologie française permettant de mieux prendre en compte ce qui s'est produit, que la Chine va décrire dans sa presse strictement selon les faits, mais sans ajouter la psychologie. Et d'autre part, je rajoute un proverbe chinois qui rajoute le critère du temps. Donc nous avons trois dimensions, qui sont la dimension de l'émotion ou de la crise, la dimension de la distance qui est symbolisée par la langue française et la dimension du temps qui est symbolisée par le proverbe chinois. Et le tout fait une espèce de cube littéraire de l'aventure de la Chine en 2008.
Alors justement, on peut avoir un avant-goût de ces histoires. Vous pouvez nous en lire une pour se rendre compte un petit peu du style.
Bien oui. Je vais vous lire une de mes chroniques qui s'appelle « La dure leçon du jeune homme riche ». Et le proverbe chinois que je vous donne à l'avance est « Tai ruo mu ji », ce qui signifie « figé raide comme un coq en bois », au sens d'avoir perdu toute contenance. Donc voici l'histoire. Jeune homme riche, Yuan occupe les rêves de toutes les mères de filles à marier. Tous les jours, à Taohua, dans le Shanxi, il parade et pétarade à travers la grande rue au volant de ses prétentieuses bagnoles, tandis que les passants se murmurent la liste de ses biens sous le soleil. Son seul défaut, notoire, est, comme qui dirait, inhérent à sa fortune. Il est avare. Sous aucun prétexte, il n'aime dépenser pour d'autres que lui-même. À quelques pas de chez lui, dans la ville, sa grand-mère se mourait dans un grand dénuement, entre les murs nus, sous-loués, ayant vu fondre au fil des ans ses maigres avoirs. En janvier, l'oncle Guihua était venu prier Yuan de lui prêter quelques billets pour adoucir sa misère. Du beau capitaliste si plein d'avenir, il n'avait obtenu, en guise d'aumône, que 2 livres de farine et de riz, 1 livre de navets en saumure, de quoi faire cuire une marmite de Zhou, avait dit Yuan au sourire affable. La bouillie qui la guérira. Quelques jours plus tard, la vieille trépassa. Presque au même moment, coïncidence qui n'échappa pas aux inspecteurs, une peinture d'un grand prix d'époque Song du Nord, 960-1127, disparut de chez Yuan qui porta plainte illico tout en recrutant à tout hasard un détective privé. À la fête mortuaire chez l'oncle Guihua, Yuan s'étonna du faste très au-dessus des moyens de la famille, lui-même excepté. Autour du cercueil serti de clous d'argent, les rites furent respectés sans le moindre laisser-aller. Les pleureuses, l'orchestre de mirlitons, cymbales et crécelles, le prieur tiré de son monastère, nul ne manquait et tous recevaient leur petite enveloppe. Le banquet aux 15 plats à l'ancienne fut accompagné des sanglots entrecroisés du arhu, c'est-à-dire de la viole à 2 cordes, et du suona, c'est-à-dire du fifre. Sans lui tenir rigueur de sa pingrerie passée, Guihua traita princièrement le jeune homme riche et lui fit les honneurs de la fête. Après avoir vidé ensemble quelques coupes de maotai, l'oncle avoua les yeux dans les yeux qu'il était l'auteur du larcin. Revendu à une galerie de Xi'an, la capitale provinciale, le rouleau avait financé les funérailles. S'il le souhaitait, Yuan pourrait le racheter le lendemain matin et même récupérer le reliquat du produit de la vente dans un trou du mur derrière l'armoire. Alors, comme dans un mauvais vaudeville, coup de théâtre. Entrèrent les argousins qui empoignèrent l'oncle dénoncé par le détective qui était remonté jusqu'à lui. Seul, au milieu des siens, le jeune homme restait figé, raide comme un coq en bois. Toute l'assistance s'écarta de lui, pestiférée. Même la morte depuis la bière semblait arborer un rictus de dédain. L'oncle Guiroy passa au bloc une nuit sereine, dans la certitude d'avoir agi selon son devoir. Contrairement à son neveu, taraudé par sa conscience, Guiroy ne doutait pas d'être libéré dès l'aube par Johan en personne, qui viendrait au poste retirer sa plainte. Quant à ce dernier, il en était certain, ses fiancés, il irait dorénavant se les chercher ailleurs.
Eh bien voilà, Eric Meyer, merci pour la lecture d'une des histoires de Bon chat chinois apprend la souris. Alors on va un petit peu laisser derrière nous cette légèreté de la société chinoise qui se débrouille comme elle peut. Et aborder un problème plus politique, moi j'aimerais que vous nous expliquiez comment fonctionne réellement le pouvoir en Chine. Évidemment, quelques minutes, hein, il n'est pas question de faire un cours, mais c'est une grande interrogation, je crois, pour les Français de se demander quel est réellement le rôle du Parti communiste là-bas et comment ça marche.
Oui, tout à fait. Eh bien, vous avez en fait deux paramètres. Le premier, c'est un pouvoir binaire où tous les postes de commande sont doublés entre un personnage qui représente le niveau civil et un personnage qui représente le niveau parti. Et tout cela se passe en pyramide du haut vers le bas. Tout en haut, vous avez un homme qui cumule tous ses pouvoirs, et même celui, le troisième, qui est celui de l'armée. Je veux parler du président Hu Jintao, qui est à la fois le président civil de la République et le premier secrétaire politique du Parti communiste. Et cela va ainsi sur les cinq niveaux de pouvoir jusqu'au niveau du village. Vous retrouvez le maire de village et le secrétaire du parti. La démocratie en Chine existe sur base embryonnaire et relativement inutile au niveau du village où le maire est élu, mais pas au niveau de la ville ou du canton ou de la préfecture ou de la province, en aucun cas, surtout pas au niveau national. Et d'autre part, en face du maire, vous avez le secrétaire du parti qui, lui, a tous les pouvoirs et n'est pas élu. Il est nommé par le parti. Et en plus, le budget du village, lui, dépend du niveau supérieur et est octroyé par le niveau supérieur. C'est donc le parti qui tient les cordons de la bourse et même les fils autour du cou du village et qui en fait ce qu'il en veut. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, c'est que contrairement aux apparences, le pouvoir n'est pas unifié dans une pyramide de pouvoir, mais il est atomisé dans une multitude d'histoires. Autrement dit, il n'y a pas un Big Brother, un grand frère, Big Brother is watching you, mais il y a une multitude de petits frères qui sont comme des petits singes dans la montagne et qui courent dans tous les sens et qui font des galipettes et qui font du n'importe quoi. Autrement dit, vous avez le lobby industriel des sidérurgistes, vous avez une province, par exemple, rien qu'une province elle-même est structurée comme un État complet. Avec une industrie chimique, une industrie automobile, une industrie textile, une autre de la bagnole, du commerce, de tout ce que vous voulez, des mines, beaucoup de mines. Et de facto, chaque province est constituée comme un État indépendant. Autrement dit, l'essentiel de ce système, ça ressemble à une fédération Leclerc où chacun a obtenu son supermarché franchisé en payant quelque chose au niveau central, lequel détient des outils communautaires à disposition de tout le monde, c'est-à-dire une sorte de holding qui serait la justice, ce qui en tient lieu, quoi, la presse nationale, les prisons, les camps et le système politique national avec les ministères, quoi.
Alors, quel rôle joue réellement Hu Jintao?
Ben, Hu Jintao, c'est le personnage tout à fait mystérieux, c'est le sphinx du pays, comme l'était d'ailleurs Jiang Zemin avant lui. Il est probablement un homme extrêmement prudent et dont l'unique programme... il a un double programme dans la vie. Le premier, c'est de rectifier un déséquilibre très grave en faveur des villes et en faveur des riches. Favoriser un petit peu, enfin donner quelque chose aux paysans et aux pauvres, notamment au niveau de l'éducation, de l'accès à la finance, au crédit et au matériel aratoire et au commerce, des choses comme ça. Mais son programme essentiel, à part cela, c'est de d'organiser une majorité permanente qui lui permette de diriger entre tous ces petits singes qui courent dans tous les sens. Donc, il n'a pas de programme cohérent à long terme, puisqu'il y a une très forte majorité de gens qui sont, par exemple, les anciens gardes rouges, qui ont 55-60 ans, qui ont à peine le certificat d'études et qui tiennent le pouvoir. Alors que vous avez à côté de plus en plus de gens qui sont jeunes, docteurs en quelque chose, formés en Chine ou même à l'étranger, qui sont extrêmement compétents, mais qui n'ont pas le pouvoir. Donc, entre tous ces gens-là, il faut arriver à organiser un deal qui crée du progrès, qui fasse aller dans le bon sens, qui lutte contre le sida, contre les maladies, qui améliore la santé, qui crée des hôpitaux, etc., qui lutte contre la corruption, qui lutte contre la pollution, etc. Et force est de dire que Hu Jintao est en échec complet sur tous ces dossiers pour le moment. Je ne sais pas ce que ça va donner à l'avenir. Il promet beaucoup de choses. Il essaye réellement de lutter contre la corruption. Exemple, l'été dernier, Zheng Xiaoyu, c'était un personnage au rang de ministre qui était le patron de la Food and Drugs Administration, c'est-à-dire de l'administration des aliments et des médicaments. Et cet homme a été exécuté d'une balle dans la tête, tout ministre qu'il soit, pour avoir été corrompu et pour avoir validé des médicaments qui n'en étaient pas, notamment des antibiotiques dont quelques dizaines de patients sont morts.
Alors, le dissident chinois Yang Chunlin a été condamné à 5 ans de prison pour menées subversives. Ouvrier sans emploi à Yamuchi, dans le nord-est du pays, il était passé en jugement en février pour avoir fait circuler en 2007 une pétition affirmant « Nous ne voulons pas des Jeux olympiques, nous voulons les droits de l'homme ». Pour le parquet, cette pétition portait atteinte à l'image de la Chine dans le monde et s'apparentait à un acte de subversion. Alors, est-ce que vous pensez que des exemples comme celui-ci risque de se répéter à l'approche des Jeux Olympiques?
C'est malheureusement assez probable. Le gouvernement a investi 40 milliards de dollars dans les Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques, c'est les habits neufs de l'empereur. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays, et notamment l'absence de communication transversale entre des différents groupes de la société, différents corps de métier, différentes provinces, etc., parce que le Parti communiste veut garder le pouvoir complet sur tous les aspects de la société. Un certain nombre de gens manifestent qu'ils ne sont pas contents de ces Jeux Olympiques, qu'ils ne les voulaient pas, qu'on ne leur a pas demandé leur avis, et que ça coûte cher. Par exemple, l'alimentation a augmenté de 30 à 50% dans la dernière année, dont 80% pour la viande de porc. Maintenant, la plupart des gens, quand ils vont au marché, on les voit acheter 100 grammes de porc. 200 grammes de porc, ça s'achète en liang, c'est-à-dire par unité de 50 mètres, et non pas par tin, ce qui est l'unité de 500 grammes, quoi, de la livre. Et les gens ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, et ils voient en même temps des dépenses somptuaires, sans compter pour ces Jeux Olympiques, en acier inoxydable, avec beaucoup de clinquants et des bling-bling, dedans, les gens disent, mais quand même, si on veut se faire plaisir, pourquoi ne pas nous faire plaisir à nous-mêmes en nous nourrissant un peu mieux ou en s'occupant des pauvres plutôt que de faire une fête somptuaire pour redorer le blason du parti. Alors effectivement, ce genre de discours offense et gifle de plein fouet le parti. C'est exactement le contraire de ce qu'il veut faire. C'est une opposition frontale d'un point de vue communiste. Ce genre d'attitude est impardonnable.
Et la preuve, parce que 5 ans de prison, c'est quand même très très lourd. Alors c'est le moment de rappeler qu'il y a 12 propositions d'intellectuels qui circulent sur Internet, des intellectuels chinois, qui font une pétition contre les Jeux Olympiques et pour les droits de l'homme.
Ouais.
Donc ça, on peut le trouver sur Internet, sur le site rue89.com. On peut trouver d'ailleurs sur Internet un maximum d'informations sur tous ces sujets. Mais moi, je me demandais, vous étiez quand même un des rares étrangers à être en 89 à Tiananmen, et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe au Tibet, ça vous inspire quoi comme réflexion?
Un immense gâchis et un désastre annoncé. Sous un certain angle, il ressemble à des scènes qui se sont déjà produites ailleurs en beaucoup de points du monde. Et je voudrais rappeler que en 1955, la France se trouvait au Maroc, où elle a beaucoup donné, beaucoup payé en argent, en hommes, en efforts pour améliorer la vie du pays. La France disait aux Marocains, on vous apporte des routes, on vous apporte des écoles, on vous apporte une constitution et une justice honnête. On vous apporte des usines, on va mettre en valeur votre agriculture, faire pousser des vignobles, etc. Et les Marocains qui disaient, allez-vous-en, on ne veut pas de tout ça, on ne veut pas du développement, on veut être nous-mêmes et puis musulmans et chacun chez soi. Eh ben, les Français ne comprenaient absolument pas. Ils disaient, vous êtes des ingrats et des idiots en plus. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas de développement, vous enrichir, être heureux? Ah ben oui, mais on veut le faire par nous-mêmes. Eh bien, la Chine croit que face au Tibet, elle fait exactement ça. Elle apporte pour des milliards de dollars que les Tibétains n'ont pas demandé en école, en route, en électricité, en chemin de fer avec cette ligne la plus haute du monde et la plus chère du monde, 5 milliards de dollars qui passe jusqu'à 5000 mètres de hauteur. C'est un train merveilleux. Le seul problème, c'est que ce train apporte l'été dernier 3 millions de touristes sur toute la saison à travers le Tibet. Et il est complet en permanence avec de nombreuses rames tous les jours.
Vous l'avez pris ?
Non, pas encore, malheureusement, je le regrette. Mais par contre, les Tibétains n'en veulent pas. Et en plus, le secrétaire du parti local, M. Zhang Qingli, a annoncé aux Tibétains que le nouveau Bouddha vivant, c'était le comité central du Parti communiste chinois. Et il leur a annoncé aussi que les cadres et les étudiants tibétains n'avaient pas le droit d'aller dans les monastères pour se recueillir ou pour brûler un bâton d'encens. Tout cela semble profanatoire et semble une vexation inacceptable. On se demande pourquoi est-ce que ce secrétaire a pris de telles mesures alors qu'il y avait eu un relatif esprit bon enfant et beaucoup plus doux il y a quelques années. En 2002, j'écrivais un livre qui s'appelait « Sois riche et tais-toi ». Il y avait un chapitre sur le Tibet où j'annonçais que le Tibet était en très bonne voie d'une forme, ça pouvait faire grincer des dents, mais d'une forme d'assimilation douce au sens où les Tibétains avaient le droit d'apprendre leur langue et à un moment donné, ils pouvaient craindre de ne pas avoir les meilleurs emplois du monde parce que les bons emplois sont en langue chinoise. Donc il fallait aller à Pékin, il fallait aller à Chengdu, puis là on ne parlait plus le tibétain, mais c'était leur choix au moins. Eh bien, ce genre de scénario, malheureusement, est démenti maintenant. J'avoue que j'ai eu tort, je n'ai pas vu arriver cet avenir beaucoup plus violent, beaucoup plus rude. D'un seul coup, il y a une crispation des deux côtés et je ne comprends pas pourquoi. Donc il y a une immense occasion qui est gâchée, mais je crois que l'essentiel, c'est que cet État chinois veut apporter un bien-être aux Tibétains qui considèrent que le principal bien-être, c'est leur conscience et leur culture et leur passé, et que rien ne vaut cela et qu'ils en ont besoin. Donc c'est un drame complet.
Vous pensez que Hu Jintao recevra un jour le Dalai Lama ?
Pour le moment, pour des raisons que j'ignore, le Hu Jintao, mais ce n'est pas surtout, pas du tout que lui, c'est l'ensemble du Parti communiste au sommet a pris la décision de prendre le Dalai Lama pour un gangster et refuse un accommodement. La raison pourrait être qu'ils attendent qu'il soit mort pour nommer eux-mêmes un nouveau Dalai Lama, comme ils ont fait pour le Panchen Lama et le Karmapa Lama. Mais ça risque d'être un calcul extrêmement dangereux, car le Dalai Lama, d'abord, n'a que 72 ans et il peut très bien vivre 20 ans de plus. Et d'autre part, il est en train de dire « il n'y a pas le feu à la baraque, mais je peux tout à fait désigner mon propre successeur si les Tibétains le souhaitent ».
Bon, donc il faut attendre un petit peu que les choses se décantent.
Tout à fait. Je voulais dire encore que cette attitude étriquée et à courte vue face au bouddhisme tibétain est la même face à l'islam et surtout face à l'Église catholique et à l'Église protestante. Il n'y a aucune normalisation avec toute religion que ce soit. Et dans le cas du catholicisme, je crois que je sais pourquoi. le catholicisme d'État local perdrait tout pouvoir et perdrait tous ses privilèges si on transigeait, si on traitait directement un concordat avec le Vatican. Donc peut-être qu'il y a la même situation sans qu'on le sache, où un clergé rallié, lamaïste, perdrait tout et que c'est lui qui refuse l'accommodement. C'est peut-être une possibilité. En tout cas, on est nulle part dans le rapport entre les religions dans le monde et la Chine.
Votre avis rapidement sur le boycott des JO ?
À mon avis, il ne faut absolument pas boycotter les Jeux Olympiques, car ce serait punir le peuple chinois et ce serait le punir deux fois, car lui qui espère pouvoir recevoir la Chine chez lui et rompre une vieille fatalité où il se voyait comme inférieur au reste du monde, eh bien, il serait obligé de dire on n'a pas été assez bon pour le monde, il ne nous aime pas et il ne nous aimera jamais. Ça, c'est une première punition. Une deuxième punition, c'est le Parti communiste qui lui dit « Je vous l'avais bien dit que ces étrangers, il ne fallait pas leur faire confiance. Et donc, il n'y a qu'une seule personne au monde qui puisse t'aider, c'est moi, le parti, je ne suis pas remplaçable. » Et donc, ça retardera sa libération d'autant. Et pour cette raison, je crois qu'il faut effectivement donner un signal fort au parti en boycottant la cérémonie d'ouverture, mais pas boycotter les Jeux Olympiques.
Éric Meyer, merci. Donc, vous êtes d'accord avec les 53% de Français qui sont favorables au boycottage de la cérémonie d'ouverture. C'est un sondage CSA,
oui,
pour Libération.